L'esprit. Le monde des esprits est prodigieusement vaste. Celui du spirituel est infini. Examinons donc ce qu'est au juste cet esprit que nous ont légué les anciens. Ils l'enfantèrent dans les douleurs, mais ils ne purent se reconnaître en lui. Ils avaient pu le mettre au monde, mais il devait parler lui-même. Le Dieu né, le Fils de l'homme, exprima le premier cette pensée que l'esprit, c'est-à-dire lui, le Dieu, n'a nulle attache avec les choses terrestres et leurs rapports, mais uniquement avec les choses spirituelles et leurs rapports. Mon inébranlable fermeté dans l'adversité, mon inflexibilité et mon audace sont-elles déjà l'esprit dans la pleine acception du mot? Le monde, en effet, ne peut rien contre elle. Mais s'il en était ainsi, l'esprit serait encore en opposition avec le monde, et tout son pouvoir se bornerait à ne point s'y soumettre. Non, tant qu'il ne s'occupe point exclusivement de lui-même, tant qu'il n'a pas uniquement affaire à son monde, au monde spirituel, l'esprit n'est pas encore le libre esprit. Il demeure l'esprit du monde enchaîné à ce monde. L'esprit n'est libre esprit, c'est-à-dire réellement esprit, que dans le monde qui lui est propre. Ici-bas, dans ce monde, il reste un étranger. Ce n'est que dans un monde spirituel que l'esprit se complète et prend possession de soi. Car ce bas monde ne le comprend pas et ne peut garder auprès de lui la fille de l'étranger. Mais où trouvera-t-il ce domaine spirituel? Où, sinon en lui-même? Il doit se manifester, et les mots qu'il prononce, les révélations par lesquelles il se découvre, c'est là son monde. Comme l'extravagant ne vit et ne possède son monde que dans les figures fantastiques que crée son imagination, comme le fou engendre son propre monde de rêve, sans lequel il ne serait pas fou, ainsi l'esprit doit créer son monde de fantômes, et tant qu'il ne l'a pas créé, il n'est pas esprit. Ce sont ses créations qui le font esprit. C'est à elles qu'on le reconnaît, lui, leur créateur, il vit en elles, elles sont son monde. Qu'est-ce donc que l'esprit? L'esprit est le créateur d'un monde spirituel. On reconnaît sa présence en toi et en moi dès que l'on constate que nous nous sommes appropriés quelque chose de spirituel, c'est-à-dire des pensées. Que ces pensées nous aient été suggérées, peu importe, pourvu que nous leur ayons donné la vie. Car aussi longtemps que nous étions enfants, on eût pu nous proposer les maximes les plus édifiantes sans que nous eussions la volonté ou que nous fussions en état de les recréer en nous. Ainsi donc, l'esprit n'existe que lorsqu'il crée du spirituel, et son existence résulte de son union avec le spirituel, sa création. Comme c'est à ses œuvres que nous le reconnaissons, il faut nous demander ce que sont ses œuvres. Les œuvres, les enfants de l'esprit, ne sont autres que des esprits, des fantômes. Si j'avais devant moi des juifs de vieilles roches, je pourrais m'arrêter ici et les laisser méditer sur le mystère de leur incrédulité et de leur incompréhension de 20 siècles. Mais comme toi, mon cher lecteur, tu n'es pas un juif, du moins pas un juif pur sang. Nul d'entre eux ne se serait égaré jusqu'ici. Nous ferons encore ensemble un bout de chemin, jusqu'à ce que toi aussi, peut-être, tu me tournes le dos, croyant que je me moque de toi. Si quelqu'un te disait que tu es tout esprit, tu te tâterais et ne le croirais pas, mais tu répondrais. Je ne manque en vérité pas d'esprit, j'en ai, mais je n'existe pas uniquement comme esprit, je suis un homme en chair et en os. Tu ferais encore toujours une distinction entre toi et ton esprit. Mais, réplique ton interlocuteur, c'est ta destinée, quoique tu sois encore à présent le prisonnier d'un corps, de devenir quelque jour un esprit bienheureux. Et si tu peux te figurer l'aspect futur de cet esprit, il est également certain que dans la mort tu abandonneras ce corps, et que ce que tu garderas pour l'éternité, ce sera toi, c'est-à-dire ton esprit. Par conséquent, ce qu'il y a de véritable et d'éternel en toi, c'est ton esprit. Le corps n'est que ta demeure en ce monde, demeure que tu peux abandonner et peut-être changer pour une autre. Te voilà convaincu ? Pour le moment, en vérité, tu n'es pas un pur esprit, mais lorsque tu auras émigré de ce corps périssable, tu pourras te tirer d'affaire sans lui. Aussi est-il nécessaire de prendre tes précautions et de soigner à temps ton moi par excellence. Que servirait-il à l'homme de conquérir l'univers s'il devait pour cela faire tort à son âme ? De graves doutes se sont élevés au cours des temps contre les dogmes chrétiens et t'ont dépouillé de ta foi en l'immortalité, de ton esprit. Mais un dogme est resté debout. Tu es toujours fermement convaincu que l'esprit est ce qu'il y a de meilleur en toi et que le spirituel doit primer en toi tout le reste. Quel que soit ton athéisme, tu communies avec les croyants en l'immortalité dans leur zèle contre l'égoïsme. Qu'entends-tu donc par un égoïste ? Celui qui, au lieu de vivre pour une idée, c'est-à-dire pour quelque chose de spirituel, et de sacrifier à cette idée son intérêt personnel, sert au contraire ce dernier. Un bon patriote, par exemple, porte son offrande sur l'autel de la patrie, et que la patrie soit une pure idée, cela ne fait pas de doute. Car il n'y a ni patrie ni patriotisme pour les animaux, auxquels l'esprit est interdit, ou pour les enfants encore sans esprit. Celui qui ne se montre pas bon patriote décèle son égoïsme vis-à-vis de la patrie. Il en est de même dans une infinité d'autres cas. Jouir d'un privilège aux dépens du reste de la société, c'est pécher par égoïsme contre l'idée d'égalité. Détenir le pouvoir, c'est violer en égoïste l'idée de liberté, etc. Telle est la cause de ton aversion pour l'égoïste. Il subordonne le spirituel au personnel, et c'est à lui qu'il songe, alors que tu préférerais le voir agir pour l'amour d'une idée. Ce qui vous distingue, c'est que tu rapportes à ton esprit tout ce qu'il rapporte à lui-même. En d'autres termes, tu scindes ton moi et ériges ton moi proprement dit, l'esprit, en maître souverain du reste que tu juges sans valeur, tandis que lui ne veut rien entendre d'un tel partage et poursuit à son gré ses intérêts tant spirituels que matériels. Tu crois ne t'insurger que contre ceux qui ne conçoivent aucun intérêt spirituel, mais en fait tu embrasses dans ta malédiction tous ceux qui ne tiennent pas ces intérêts spirituels pour les vrais, les suprêmes intérêts. Tu pousses si loin ton office de chevalier servant de cette belle que tu la proclames l'unique beauté qui soit au monde. Ce n'est pas pour toi que tu vis, mais pour ton esprit et pour ce qui tient à l'esprit, c'est-à-dire pour des idées. Puisque l'esprit n'existe qu'en tant qu'il crée le spirituel, tâchons donc de découvrir sa première création. De celle-ci découle naturellement une génération indéfinie de création. Comme à en croire le mythe, il suffit que les premiers humains fussent créés pour que la race se multipliât spontanément. Quant à cette première création, elle doit être tirée du néant. C'est-à-dire que l'esprit, pour se réaliser, ne dispose que de lui-même. Bien plus, il ne dispose pas même encore de lui, mais il doit se créer. L'esprit est par conséquent lui-même sa première création. Quelque mystique que le fait paraisse, sa réalité n'en est pas moins attestée par une expérience de tous les jours. Es-tu un penseur avant d'avoir pensé ? Ce n'est que par le fait que tu crées ta première pensée, que tu crées en toi le penseur, car tu ne penses point tant que tu n'as point eu une pensée. N'est-ce pas ton premier chant qui fait de toi un chanteur ? Ta première parole qui te fait homme parlant. De même, c'est ta première production spirituelle qui fait de toi un esprit. Si tu te distingues du penseur et du chanteur que tu es, tu devrais te distinguer également de l'esprit et sentir clairement que tu es encore autre chose qu'esprit. Mais de même que le moi pensant perd aisément la vue et l'ouïe dans son enthousiasme de penser, de même l'enthousiasme de l'esprit t'a saisi, et tu aspires maintenant de toutes tes forces à devenir tout esprit et te fondre dans l'esprit. L'esprit est ton idéal, l'inaccessible, l'au-delà. Tu appelles l'esprit Dieu. Dieu, c'est l'esprit. Ton zèle t'excite contre tout ce qui n'est pas esprit. Aussi t'insurges-tu contre toi-même, qui n'est pas exempt d'un reste de non-spiritualité. Au lieu de dire « je suis plus qu'esprit », tu dis avec contrition « je suis moins qu'esprit ». L'esprit, le pur esprit, je ne puis que le concevoir, mais je ne le suis point. Et puisque je ne le suis pas, c'est qu'un autre l'est, et cet autre je l'appelle Dieu. L'esprit, pour exister comme pur esprit, doit nécessairement être un au-delà, car, puisque je ne le suis pas, il ne peut être qu'en dehors de moi. Et puisque nul homme ne réalise intégralement la notion d'esprit, l'esprit pur, l'esprit en soi ne peut être dehors des hommes, au-delà du monde humain, non terrestre, mais céleste. Cette discordance entre moi et l'esprit, qui éclate en ce fait que moi et esprit ne sont pas deux noms applicables à une seule et même chose, mais deux noms différents pour deux choses différentes, que je ne suis pas esprit et que l'esprit n'est pas moi, cela suffit pour nous montrer sur quelle tautologie repose l'apparente nécessité pour l'esprit d'habiter l'au-delà, c'est-à-dire d'être Dieu. Cela seul aussi suffit pour nous faire apprécier la base totalement théologique sur laquelle Feuerbach édifie la solution qu'il s'efforce de nous faire accepter. Autrefois, dit-il, nous ne cherchions et n'apercevions notre essence que dans l'au-delà. Tandis qu'à présent que nous comprenons que Dieu n'est que notre essence humaine, nous devons reconnaître cette dernière comme nôtre et la transposer de nouveau de l'autre monde en ce monde. Ce Dieu qui est esprit, Feuerbach l'appelle notre essence. Pouvons-nous accepter cette opposition entre notre essence et nous et admettre notre division en un moi essentiel et un moi non essentiel? Ne sommes-nous pas ainsi de nouveau condamnés à nous voir misérablement bannis de nous-mêmes? Que gagnons-nous donc à métamorphoser le divin extérieur à nous en un divin intérieur? Sommes-nous ce qui est en nous, pas plus que ce qui est hors de nous? Je ne suis pas plus mon cœur que je ne suis ma maîtresse, cet autre moi. C'est précisément parce que nous ne sommes pas l'esprit qui habite en nous que nous étions obligés de projeter cet esprit hors de nous. Il n'était pas nous, ne faisant qu'un avec nous. Aussi ne pouvions-nous lui accorder d'autre existence que hors de nous, au-delà de nous, dans l'au-delà. Feuerbach étreint avec l'énergie du désespoir tout le contenu du christianisme, non pour le jeter bas, mais pour s'en emparer, pour arracher de son ciel, par un dernier effort, cet idéal toujours désiré, jamais atteint, et le garder éternellement. N'est-ce point là un suprême effort, une entreprise désespérée sur la vie et la mort, et n'est-ce point en même temps la dernière convulsion de l'esprit chrétien altéré d'au-delà? Le héros ne tente pas d'escalader le ciel, mais de l'attirer à lui, de le forcer à devenir terrestre. Et que crie le monde entier depuis ce jour-là? Qu'appellent ses vœux plus ou moins conscients? Qu'il vienne, cet au-delà, que le ciel descende sur la terre, qu'il s'ouvre dès maintenant à nous. À la doctrine théologique de Feuerbach, opposons en quelques mots les objections qu'elle nous suggère. L'être de l'homme est pour l'homme l'être suprême. Cet être suprême, la religion l'appelle Dieu et en fait un être objectif, mais il n'est, en réalité, que le propre être de l'homme. Et nous sommes à un tournant de l'histoire du monde, parce que désormais pour l'homme, ce n'est plus Dieu, mais l'homme qui incarne la divinité. À cela nous répondons. L'être suprême est l'être ou l'essence de l'homme, je vous l'accorde. Mais c'est précisément parce que cette essence suprême est son essence, et non lui, qu'il est totalement indifférent que nous la voyons hors de lui et en fassions Dieu, ou que nous la voyons en lui et en fassions l'essence de l'homme, ou l'homme. Je ne suis ni Dieu ni homme, je ne suis ni l'essence suprême, ni mon essence, et c'est au fond tout un que je conçoive l'essence en moi ou hors de moi. Bien plus, toujours l'essence suprême a été conçue dans ce double au-delà, au-delà intérieur et au-delà extérieur, car d'après la doctrine chrétienne, l'Esprit de Dieu est aussi notre esprit et habite en nous. Il habite le ciel et habite en nous. Nous ne sommes que sa demeure. Si Feuerbach détruit sa demeure céleste et le force à venir s'installer chez nous avec armes et bagages, nous serons, nous, son terrestre logis, singulièrement encombré. Cette digression, nous nous avisons après coup qu'il eût mieux valu la réserver pour plus tard, pour éviter une répétition. Revenons à la première création de l'esprit, c'est-à-dire à l'esprit lui-même. L'esprit est quelque chose d'autre que moi. Ce quelque chose d'autre, quel est-il ?